Donc, comme vous voyez s'afficher, le titre de cette méditation, c'est le combat spirituel. Ça tombe bien, on vient chanter le Dieu de l'impossible. Et quelquefois, les combats, s'ils ne dépendaient que de nous, eh bien, ils passeraient dans l'impossible. Mais est-ce que le combat, le mot combat, n'est pas un peu exagéré? Est-ce qu'il y a vraiment des combats spirituels? En tout cas, c'est bien ce mot-là que les apôtres emploient dans les épîtres. On peut trouver dans 1 Corinthiens chapitre 14, Colossiens chapitre 2, Timothée, 1 Timothée chapitre 6, 2 Timothée chapitre 4, Hébreux chapitre 10, on voit que c'est ce mot-là qui est employé par les apôtres pour parler de leur lutte, du combat. Et quand l'apôtre Paul parle de ses compagnons d'œuvre, il parle aussi de ses compagnons de combat. C'est le cas dans Philippiens chapitre 2, dans Philémon chapitre 1. Alors, de quel combat s'agit-il? Parce que un combat peut quelquefois en cacher un autre. Et pour illustrer cela, j'aimerais vous lire un récit du livre de l'Exode, chapitre 17, les versets 8 à 14. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » On voit dans ce texte que Moïse a bien compris que la victoire, c'est Dieu qui va la remporter. Et c'est pour cela qu'il laisse le commandement du peuple à Josué et que lui, il monte sur la colline. Alors, il n'y monte pas pour regarder le combat d'un peu loin ou pour observer et définir une stratégie. Non, il monte sur la colline pour se tenir en présence de l'Éternel. C'est sûr que Dieu aurait pu exterminer Amalek en un instant, sans même que les hommes combattent. Mais il veut un partenariat avec son peuple et surtout, il veut qu'Israël sache comment il doit remporter une victoire, comment il peut remporter une victoire. Le texte nous dit que quand Moïse baisse les bras, Amalek est plus fort. Et que quand Moïse lève les bras, Israël est plus fort. Ce n'était pas forcément évident pour les combattants, mais le combat, il n'était pas vraiment dans la vallée. Le vrai combat, il était sur la colline. Sans doute que certains des combattants se sont rendus compte que l'intercession de Moïse était la clé de la victoire. Mais je pense que pour la plupart des combattants, ils pensaient que c'était leur épée qui était efficace, que c'était leur épée qui faisait la différence. En tout cas, sur la colline, les trois hommes sont organisés. Et en quelque sorte, on peut penser que c'est une chaîne de prières qu'ils font, parce qu'ils veillent à ce que jamais les bras de Moïse ne baissent. Vous savez, le récit fait quelques lignes dans nos Bibles, mais le combat n'a pas duré que quelques minutes. Il a duré jusqu'au coucher du soleil. Et si on sait qu'Amalek était plus fort quand Moïse baissait les bras, c'est parce que Moïse a baissé les bras. Et ce n'est pas banal, parce que ça signifie que chaque fois que Moïse a baissé les bras, des hommes du peuple d'Israël, des combattants, sont tombés sur le champ de bataille, blessés, peut-être même tués. Croyez-moi, quand Moïse, épuisé, baissait les bras et qu'il voyait que ses frères, ses amis du peuple, tombaient sous l'épée adverse, malgré la fatigue, malgré la difficulté, bien vite, il devait remonter ses bras. Et c'est pour ça que Hur et Aaron ont vu tout de suite qu'il fallait aider Moïse, qu'il fallait soutenir ses bras. Et Moïse a tenu avec persévérance jusqu'au coucher du soleil. À la fin, le texte nous dit que la victoire est remportée. Et c'est même une victoire définitive, puisqu'il y a cette promesse de Dieu: j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Comme je le disais, le combat semblait être dans la vallée, avec des lances et avec des épées. Et d'ailleurs, c'était nécessaire que le peuple se batte avec ses lances et ses épées. Mais la victoire, elle s'est remportée sur la colline avec les bras levés vers l'Éternel. Alors nous sommes, nous aussi, confrontés à des combats où nous avons à utiliser nos lances et nos épées, c'est-à-dire avec les moyens terrestres que Dieu a mis à notre disposition, tout en sachant que la victoire ne peut être remportée que les bras levés vers l'Éternel. Nous devons agir et lutter, mais si la prière n'accompagne pas notre combat, eh bien, nous n'obtiendrons jamais la victoire. Ne nous trompons pas non plus d'adversaire. Pour combattre, il faut savoir qui est notre ennemi. Et ce n'est pas toujours si évident de savoir discerner qui est notre ennemi. Nous subissons, comme tout le monde, les petits aléas de la vie. Et pour cela, nous avons la capacité de résister. Nos globules blancs, par exemple, se chargent d'éliminer les microbes de passage. Notre patience, même si elle est limitée, elle vient à bout des difficultés passagères. Et puis, notre dentiste sait soigner nos caries. Et pourtant, il y a des attaques qui vont bien au-delà de ces petits moyens-là pour résister. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, versets 8 à 9, écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » L'apôtre nous désigne un adversaire contre lequel nos petits moyens humains sont impuissants. Cet ennemi-là, il peut nous attaquer sur différents fronts. Et même, quelquefois, il nous attaque sur plusieurs fronts à la fois. Et je pense que vous avez tous fait cette expérience-là, que quelquefois, nous subissons une attaque, et puis, il y a une deuxième vague qui arrive sans que nous ayons déjà surnagé à la première. Il y a un exemple qui nous est donné dans la Bible qui est significatif de ce combat mené sur plusieurs fronts. C'est celui de Job. Job a été éprouvé dans toutes sortes de domaines. Et je pense que vous connaissez tous ce récit du livre Job, où il a d'abord été privé de ses biens terrestres, de ses troupeaux, de sa maison, et même de ses serviteurs. Puis ensuite, il a été affecté, il a été attaqué dans ses liens affectifs. Tous ses enfants sont morts. Puis, il a été atteint dans sa santé, couvert, nous dit la Bible, par un ulcère malin. Et ensuite, eh bien, les soutiens qui lui restaient, les soutiens humains, l'ont lâché. Tout d'abord sa femme, qui l'a même encouragé à maudire Dieu et à mourir. Puis ce sont ses amis qui, bien que avec une certaine patience, sont restés vers lui pendant une semaine sans rien dire, ont fini par ni ne savoir comment le consoler, ni par le comprendre, malgré toute leur bonne volonté. Toutes ces épreuves, Job ne les doit pourtant qu'à un seul adversaire, le diable. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, si notre adversaire est le même que celui de Job, comment lutter contre lui? Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4, l'apôtre écrit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous marchons dans la chair, c'est-à-dire que nous sommes humains, nous sommes sur cette terre. Et si nous essayons, avec nos moyens humains, avec nos armes charnelles, de lutter contre les armes, contre les puissances spirituelles, eh bien nous allons tout droit à l'échec. Les armes de Dieu ne sont pas celles-là, elles ne sont pas des armes charnelles, elles ne sont pas humaines. Et quand c'est le diable qui nous attaque sur notre terrain en touchant nos biens, comme ce Job, nos sentiments, notre corps, bien que les conséquences soient charnelles, le combat est bien spirituel et notre défense doit être spirituelle. Nous devons avoir un recours spirituel. Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 11 et 12, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si nos soutiens sont humains, eh bien le diable pourra facilement les manipuler comme il l'a fait pour les soutiens de Job. Le seul soutien que le diable ne peut pas atteindre, c'est Dieu lui-même. Et dans le livre de Job, nous voyons que tant que Job essayait de se justifier, de dire qu'il ne méritait pas l'épreuve, il tournait en rond dans son malheur. Tant qu'il répliquait à ses amis en voulant démontrer que ce n'était pas une punition qu'il subissait et que ce qui lui arrivait n'était pas juste, il s'enfonçait dans le désespoir. Mais lorsqu'enfin il s'est tourné vers Dieu en reconnaissant qu'il était dépassé, qu'il ne comprenait pas et qu'il devait s'attendre à Dieu pour dépasser tout cela et que contester avec Dieu n'était pas la solution, que l'épreuve pouvait lui apprendre quelque chose, alors tout a changé. Et on peut lire dans Job, chapitre 42, versets 1 à 3, Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » lorsque Job comprend que le combat est spirituel et que le diable l'attaque pour contester la parole de Dieu, Job abandonne toute idée de justification, toute rébellion, et ainsi le diable n'a plus d'armes et il s'en va. Et il s'en va, et il s'en va comme il s'est en allé dans ce qui nous est relaté dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 13, après avoir tenté Jésus dans le désert. Il nous est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quand les combats que nous avons à mener sont des combats spirituels, nous ne pouvons les gagner qu'en nous remettant à des forces spirituelles. Le diable ne nous attaque pas parce que nous sommes importants à ses yeux. Il nous attaque parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. En nous attaquant, son but est de lutter contre Dieu, pas de lutter contre nous. Il veut atteindre la création et détruire la créature de Dieu. Il veut annuler le plan de Dieu, le plan de rédemption que Dieu a prévu pour ses enfants. Pour nous atteindre, le diable peut utiliser des virus, il peut utiliser des humains, il peut utiliser des événements, mais quels que soient les moyens employés, l'ennemi est toujours le même. Et notre défenseur est toujours le même. Nous sommes tous dans le combat. Josué était l'épée à la main dans la vallée, mais Moïse, bien que sur la colline, hors d'atteinte apparemment d'Amalek, était complètement impliqué dans le combat. De même que c'était les mains de Moïse qui étaient levées, mais elles tenaient en l'air grâce à Aaron et à Hur qui les tenaient. Lorsqu'Aaron et Hur ont constaté la fatigue de Moïse, ils ont su le faire s'asseoir sur le rocher. Alors, dans l'Église, certains de nos frères et sœurs sont atteints dans leur corps, d'autres dans leur affectif, d'autres par des événements. Mais la victoire des uns et des autres dépend de la vigilance de tous. Le combat de ceux qui sont dans la vallée dépend des mains levées de ceux qui sont sur la colline. Est-ce que nous allons baisser les bras et laisser nos frères et sœurs seuls dans le combat? Devant la souffrance d'un frère ou d'une sœur, on se sent souvent vraiment démuni, vraiment silencieux, comme les compagnons de Job. Ils sont restés une semaine silencieux devant la souffrance. C'est une preuve de patience de leur part. C'est aussi une preuve d'humilité. Mais peut-être auraient-ils dû lever les mains vers Dieu. Ils auraient ainsi évité de chercher des raisons aux souffrances de leur ami en l'accusant des pires choses. Ceux qui sont dans l'épreuve ressentent quelquefois le soutien de l'Église. Mais souvent, trop centrés sur leur lutte, ils restent les yeux fixés dans la vallée et ils ne voient pas le combat qui se livre sur la colline. Le combat est long pour ceux qui sont l'épée à la main dans la vallée, mais il est long aussi pour ceux qui sont sur la colline. Imaginons que Moïse, lorsqu'il baissait les bras, voyant que Josué reculait devant l'ennemi, se soit mis à l'accuser de mal se battre ou qu'il lui donne des conseils de stratégie au lieu de relever les bras. Nous pouvons agir de cette manière-là quelquefois devant quelqu'un qui souffre. Nous pouvons peut-être chercher chez lui la raison de son malheur ou trouver toutes sortes de causes au lieu de garder nos bras levés. Nous pouvons aussi quelquefois déplorer que tel ou tel responsable baisse les bras au lieu de savoir le soutenir et de suppléer à sa faiblesse et de l'aider à s'asseoir sur le rocher. Alors, là aussi, entre parenthèses, inutile de se poser la question de quel rocher sur lequel nous devions être assis. L'Église, c'est tout un corps. Et le combat de l'un, c'est aussi le combat de l'autre. Et c'est le combat de tous. Nous ne sommes pas des armées. La victoire se remporte sur la colline par la prière, mais les gens de la vallée ne sont pas des armées. Et ce n'est pas en vain qu'ils sont armés. Ils doivent combattre. Même si le combat était sur la colline, il ne fallait pas pour tout autant que Josué baisse son épée. Paul nous décrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 13 et la suite, les armes que Dieu nous donne. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et prier pour tous les saints. On voit d'abord dans ce texte que Paul parle de mauvais jours parce qu'il n'exclut pas les mauvais jours. Il ne parle pas non plus de les écarter, les mauvais jours. Il parle de les surmonter. Et étonnamment, la première arme que Paul mentionne, ce n'est pas une arme offensive, ce n'est pas une arme défensive non plus, une ceinture. Je suis sûr que si on demande à un soldat quelle arme il privilégierait pour un combat, jamais il ne mentionnerait une ceinture. Vous savez, quand Zelensky est venu à Londres, à Paris et à Bruxelles, il n'a pas demandé des ceintures. D'un autre côté, il est vrai que si vous êtes obligé de tenir votre pantalon pendant le combat, ce n'est pas confortable. Mais toute blague mise à part, cette ceinture, c'est la vérité. Et comment s'approcher de Dieu et demander son aide dans le mensonge ou dans la demi-vérité? Il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Alors pour demander l'aide de Dieu, nous devons être vrais en face de lui. L'apôtre utilise pour la vérité l'image de la ceinture, et sans la vérité, sans la ceinture, notre épée, notre cuirasse, tout ça tombe. Rien ne tient. Et lorsque nous avons des soucis, des problèmes, eh bien nous devons les exposer avec vérité. La deuxième arme mentionnée, c'est une cuirasse. Et quelle cuirasse ? La justice de Dieu. Ce n'est pas notre justice, mais la justice de Dieu est notre protection. La justice de Dieu, eh bien, elle pourrait nous submerger et nous détruire. Mais la justice de Dieu, elle ne peut pas tolérer que le diable nous atteigne parce que c'est Dieu qui nous a justifiés. Nous sommes justifiés par Dieu parce que nous nous sommes confiés à lui. Nous avons livré notre injustice et il l'a remplacée par sa justice. Dieu est juste et il nous justifie. Et c'est cette promesse qui doit nous rassurer sur l'issue du combat. La troisième arme, ce sont les chaussures du zèle. Notre appartenance au peuple de Dieu doit nous porter au partage de nos valeurs, à l'évangélisation, à la communion fraternelle. L'image des chaussures nous montre que nous ne devons pas être des chrétiens statiques. Nous devons aller de l'avant. Il y a une quatrième arme. C'est encore une arme défensive, le bouclier de la foi. La foi sans laquelle nous ne pouvons expérimenter ni le salut, ni l'espérance, ni aucune victoire. Tout repose sur les promesses de Dieu et notre confiance dans ses promesses. Et chaque fois que l'ennemi nous décoche des flèches, les flèches du doute, le doute de l'amour de Dieu, le doute du salut, le doute de notre place dans l'Église, nous devons brandir le bouclier de la foi non pas en ce que nous pouvons faire, mais la foi dans les promesses de Dieu. La quatrième arme, c'est encore une protection, le casque du salut. Le salut, c'est le sommet de notre espérance. C'est la protection suprême et essentielle que Dieu nous offre. Nous sommes sauvés. Et cela ne dépend pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce casque du salut, nous ne pouvons pas le gagner, nous ne pouvons que l'accepter venant de Dieu. Et nous avons une cinquième arme. C'est l'épée de l'esprit, la seule arme offensive que Dieu nous donne. Et cette arme offensive, ce n'est pas notre franc-parler, ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas ce que nous savons faire, ce ne sont pas nos paroles non plus qui peuvent toucher l'adversaire, mais c'est la parole de Dieu, donnée par son esprit. L'apôtre ajoute à toute cette liste la prière et les supplications en tout temps. Et là, nous revoyons l'image de Moïse, les bras levés. Si le diable nous attaque, ce n'est pas parce qu'il a de l'intérêt pour nous ou parce que nous sommes importants à ses yeux. Lorsque le diable nous attaque, c'est pour attaquer l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'il s'ingénie à faire le contraire de ce que Dieu a construit. Par exemple, Dieu a créé le couple, homme-femme, le diable détruit les couples. Dieu a voulu la famille, le diable divise les familles. Le diable cherche à détourner aussi l'adoration que nous devons à Dieu, à la reporter sur des idoles charnelles ou même matérielles. Dieu veut nous éclairer, le diable veut nous amener dans les ténèbres. Dieu donne la vie, le diable répand la mort. Oui, le combat existe. C'est un combat spirituel de chaque jour, de chaque instant. Et le combat spirituel ne peut être remporté qu'avec Dieu. Dieu met à notre disposition des protections et des armes qui nous sont nécessaires. Mais la victoire, elle est déjà remportée, elle a été remportée à la croix, qui a d'avance payé les fautes de ceux qui se confient en lui. Le prophète Ésaïe écrit dans chapitre 53, versets 4 et 5, un résumé de tout cela. Il écrit « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. » Et ce sont de nos souffrances qu'il a pris, sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quel merveilleux message. Oui, notre espérance est de partager notre combat, et le combat de l'Église, et le combat de nos frères et sœurs, est notre combat. Tout à l'heure, nous allons passer un petit film de Portes Ouvertes qui nous rappelle aussi que des frères et des sœurs dans le monde mènent aussi de durs combats et que leurs combats sont aussi les nôtres. Mais auparavant, j'aimerais vous demander si vous, personnellement, vous avez besoin de la prière pour un sujet particulier, pour un combat particulier, eh bien, de le dire, de l'exprimer, et l'Église priera pour vous. Alors, si vous voulez baisser vos têtes, et si vous voulez qu'on prie pour vous, pour un sujet particulier, eh bien, n'hésitez pas à lever vos mains. Oui, Seigneur notre Dieu, tu connais nos combats. Et c'est vrai que quelquefois nous avons trop de pudeur pour exprimer quels sont nos combats, trop de retenue pour les exposer. Ou quelquefois c'est parce que nous nous croyons capables de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas capables de remporter une victoire tout seuls. Nous avons besoin des mains levées de toute l'Église. Nous avons besoin de ta grâce sur nous. Et nous savons aussi que ce n'est pas un homme qui peut porter tout cela. Mais nous savons que c'est toi qui as tout porté à la croix. Et c'est sur ce rocher que nous voulons nous appuyer ce matin. Et te dire, oui Seigneur, nous voulons nous reposer en toi. Et nous voulons lever nos mains, prier. Nous voulons brandir notre épée. Nous voulons mettre notre bouclier entre nos doutes et toi. Nous voulons nous revêtir de la cuirasse de la justice. Et nous voulons agir en vérité, avec le zèle que tu nous donnes. Oui Seigneur, glorifie-toi dans chacune de nos vies, et au milieu de ton Église. Et tous ensemble, nous voulons agir pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne, dans nos cœurs, dans l'Église, dans le monde. Au nom de Jésus. Amen.